Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le psaume 100. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, dimanche soir prochain? Ah non, dimanche soir prochain, le Super Bowl, come on! Ha! Là, vous êtes perdus! C'est le Super Bowl! Come on! Il faut que vous ayez vos repères. Vous savez, dans une année, il y a des repères. Le Super Bowl, c'est un repère. Non, mais deux secondes pour parler du Super Bowl, pour de vrai, par exemple. Moi, je vais l'appeler le Fusion Bowl. C'est-tu bon, ça? Fusion? L'année dernière, au Super Bowl, nous, on a décidé d'inviter les gagnés puis d'inviter les garlands. Les garlands ne sont jamais revenus. Non, c'est pas vrai, c'est prof d'éno. Mais on a eu un super de bon temps ensemble. On a eu un excellent temps ensemble. Fait que j'aimerais ça vous encourager à prévoir ça. Je sais qu'à peu près au moins un tiers des hommes ici vont écouter le Super Bowl. Jamais je croirais. C'est le plus beau moment sportif de l'année. Pour moi, c'est comme une espèce de mélange entre un ballet puis une action militaire, tu sais. Il y a une grâce c'est vrai, j'ai l'impression d'assister à une partie de chasse. Il y a de l'intuition, de la stratégie, de la violence, de la beauté, de la grâce là-dedans. Je sais pas si Julien a déjà vu ça comme ça, mais ça, vraiment, je vois tout ça, moi, là-dedans. Je vous le dis. C'est extraordinaire à voir. Fait que je sais qu'à peu près un tiers des gars, de toute façon, vont regarder ça. Les autres comprennent rien, mais c'est le fun. C'est le fun. D'accord? Puis j'aimerais ça vous encourager à saisir cette opportunité-là. Il faut savoir saisir un peu les temps, la culture dans laquelle on vit. Les gens vont écouter le Super Bowl dimanche prochain, je vous le dis. Alors, profitez-en pour inviter des voisins, pour inviter des amis. Invitez une famille chrétienne de l'Église, puis invitez un voisin à venir avec vous. Savez-vous ce qui serait vraiment sharp? Là, j'improvise quelque chose. Si quelqu'un dans l'Église pouvait envoyer à Danny le nom de 2-3 des joueurs de ces équipes-là qui ont vraiment un beau témoignage chrétien. Pas toute la gang qui se met à genoux avant la prière, vous comprenez? On y croit pas, là. C'est pas toute la gang. Mais ceux qui ont un vrai beau témoignage dans ces deux équipes-là, il doit en avoir 2-3 certains. Si jamais vous pouvez nous donner des petits cues là-dessus, ça serait génial. Et c'est dans le cadre d'un match, tout simplement dire, hey, tu savais-tu que ce gars-là, c'est un Jesus freak comme moi? Tu savais-tu ça? Il y en a d'autres fous sur la terre comme moi. Ou peut-être saisir l'opportunité pour inviter quelqu'un de l'Église que vous allez croiser du monde tout à l'heure, vous ne les connaissez pas, invitez-les dimanche prochain. D'accord? Et saisissons ces moments-là pour connecter ensemble, puis avoir du bon temps, rire, puis avoir un temps sain ensemble. Même si pour certains, c'est peut-être un culte, cette affaire-là. Juste du bon temps. Juste du bon temps ensemble. D'accord? Dimanche soir prochain, Fusion Ball. Ça marche? Mettez ça dans votre agenda. Non, mais c'est vrai que c'est beau. Il y a une grâce incroyable. Quand tu vois un gars faire son lancer, puis avec le geste, l'intuition, tout le kit, je me sens à la chasse. J'aime ça. OK. Vous aurez remarqué que depuis quelques semaines, en fait, depuis le début de l'année, j'adresse des sujets, puis vous dites, « Esther, ce serait le fun que tu nous mettes en contexte. On ne sait comme pas où tu t'en vas. » C'est pas pire, mais où tu t'en vas avec tout ça? Ben, honnêtement, je suis en train d'adresser une série de sujets que j'ai sur mon cœur avec l'Église. Et c'est ça que je suis en train de faire, d'accord? Alors, ce matin, on va parler ensemble de la louange. Maintenant, dans quelques semaines, je vais prendre un dimanche matin pour vous présenter les deux priorités qu'on veut avoir comme assemblée en 2011. Ensuite de ça, je vais commencer un livre de l'Ancien Testament. Priez pour moi. Je suis à peu près sûr, mais je cherche encore une conviction de la part de Dieu. Et j'espère cet automne attaquer un livre du Nouveau Testament. Alors, cette bonne habitude que vous connaissez dans cette assemblée d'exposer un livre biblique, plonger dans le texte semaine après semaine, couvrir le livre, ce n'est pas perdu. On n'a pas enterré ça du tout. Au contraire, mais je saisissais aussi l'opportunité pour adresser quelques sujets avec vous. Et comme je vous dis, dans quelques semaines, je vais vous présenter les deux priorités qu'on va avoir comme Église en 2011. Ce matin, j'ai à cœur d'adresser avec l'Assemblée la question de la louange. La question de l'adoration, mais plus spécifiquement de la louange. On adore Dieu comme chrétien par nos vies entières. On adore Dieu comme chrétien par tout ce que nous faisons à tous les jours, lorsque nous le faisons pour sa gloire, lorsque nous le faisons dans la sainteté, on est en train d'adorer Dieu. Amen. Toutes nos vies en sacrifice. Amen. Amen. OK, merci. Tout le temps, on est en train d'adorer. Maintenant, ce que je veux parler avec vous ce matin, c'est de ce moment où on s'assemble en Église pour louer Dieu et pour l'adorer. Je veux parler spécifiquement de ça. Depuis toujours, le peuple de Dieu, ceux que Dieu, que l'Éternel a attirés à lui, se rassemblent pour le louer, pour le célébrer. C'est ainsi depuis toujours. Ceux que Dieu appelle, ceux que l'Éternel appelle d'entre les hommes, pour être son peuple, s'assemble pour le chanter, pour le célébrer, pour plonger les regards dans sa parole, pour élever son nom. Depuis toujours, il en est ainsi, pour célébrer ses bontés. Le psaume 100 que Jean-Sébastien vous a lu tout à l'heure, qu'on va regarder ensemble, c'est un psaume de convocation. C'est un psaume qui était utilisé, qui était chanté, qui était déclaré devant le peuple de Dieu pour convoquer le peuple de Dieu. Et si vous avez bien remarqué au début, pour convoquer la terre entière. Mais pour convoquer le peuple de Dieu à venir célébrer l'Éternel. C'est un psaume de convocation où le peuple est invité à chanter les louanges de Dieu, la gloire de Dieu, ses grâces envers nous. Et cette activité que nous faisons chaque dimanche matin en chantant les louanges de Dieu, c'est une activité sacrée. Chaque dimanche matin, lorsque vous vous levez pour venir ici et qu'on vient et qu'on chante les louanges de Dieu, nous sommes en train de chanter la gloire de Dieu pour un auditoire trois fois saint. Pour l'oreille de l'Éternel, de celui qui nous a rachetés. C'est une activité sainte et sacrée à laquelle vous êtes convoqués dimanche après dimanche. C'est un privilège. C'est un privilège parce que seul celui qui a reçu la grâce comprend ce qu'on est en train de faire ici dimanche après dimanche. Vous savez, celui qui n'a pas été gracié, celui qui n'a pas été saisi par la croix de Jésus-Christ, celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, pour lui, la croix n'a aucune beauté. Pour lui, c'est une vieille patente de religieux bigot qui, dans le meilleur des cas, peut évoquer un petit peu de mélancolie du bon vieux temps où il y avait des choses saintes. Et dans le pire des cas, c'est absolument abject, c'est laid, c'est affreux. Un gars qui est pendu sur un bois, tout le monde pleure en disant « waouh, waouh, waouh ». Mais celui qui a été saisi par la grâce de Jésus-Christ découvre la beauté de la croix, découvre le sens de ce sacrifice. Comprends qu'il y a là l'expression même de l'amour de Dieu envers moi. Pour transformer mon âme, pour racheter ma vie, pour racheter mon âme, pour me réconcilier avec Dieu. C'est donc un privilège pour ceux et celles qui ont été rachetés parmi toutes les nations, qui ont reçu cette compréhension de la grâce, qui ont été touchés par la grâce de Dieu. C'est un privilège unique qui nous est offert à nous, de joindre nos voix, dimanche après dimanche, à des cohortes d'anges qui sont en train de célébrer la gloire de Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? C'est ça qu'on fait le dimanche matin, lorsqu'on chante les louanges. Vous savez que je suis sarcastique des fois. Les chants le dimanche matin qu'on chante, c'est pas un intermède en attendant la prédication. C'est une sainte convocation à élever avec nos voix l'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice pour nous. C'est un privilège extraordinaire qui nous est offert. C'est notre plus grand privilège de chanter la gloire de Dieu, de lui offrir nos cœurs dans la prière. On a chanté ça tout à l'heure. Je répands ma vie, Seigneur. À nouveau, je répands ma vie, Seigneur, devant toi. Parce que tu as sauvé mon âme. Et ça fait la joie du cœur de Dieu. Dieu prend plaisir à recevoir nos louanges, à recevoir notre adoration, à recevoir l'engagement renouvelé de nos cœurs, semaine après semaine, pour dire, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus, de toute mon énergie, de tout mon temps, de toute ma passion, du meilleur de moi-même, Seigneur. À nouveau, je répands ma vie devant toi, parce que tu m'as sauvé dans ta grâce. Ce matin, j'adresse cette question parce que je pense qu'on a un bon bout de chemin à faire ensemble. Je pense qu'on a du chemin à faire pour comprendre ce qui se passe dans cette sainte assemblée le dimanche matin lorsqu'on vient louer Dieu. Il y a quelque chose de cette dimension sainte et glorieuse de la louange et du culte que nous ne saisissons pas. Et c'est perceptible. C'est perceptible à qui que ce soit qui veut entrer ici et être attentif à ça. Il y a quelque chose que nous ne saisissons pas. Je suis pas en train de dire que Je suis pas en train de dire qu'on vient pas adorer Dieu le dimanche matin. C'est pas ça que je veux dire. Je suis pas en train de dire que l'Esprit de Dieu ne travaille pas au milieu de nous. Ça non plus, je suis pas en train de dire ça. Mais il y a quelque chose de cette sainte assemblée que nous ne saisissons pas. C'est perceptible. Et alors même que je suis en train de vous le dire, je sais que plusieurs d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Je suis pas en train de parler de tradition. Je veux pas vous amener dans des traditions ce matin. Je veux vous amener dans la saine doctrine. Comprendre ce que nous faisons ensemble en assemblée le dimanche matin. En ce moment actuellement, réalisez ça. En ce moment actuellement, c'est le peuple de Dieu et quelques curieux, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est le peuple de Dieu qui est assemblé. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas parce que mes parents étaient chrétiens puis mes arrière-grands-parents étaient chrétiens. Si je suis ici ce matin, je peux vous l'assurer, c'est à cause de la croix de Jésus-Christ. Ce matin, c'est le peuple de Dieu qui est assemblé pour célébrer l'Éternel. Amen. L'Église de Jésus-Christ, un peuple qu'il s'est racheté au prix de son sang, de sa vie, un peuple qu'il aime tendrement, sur qui il veille sans cesse, ses regards sont constamment sur son peuple, celle qu'il appelle son épouse, qu'il veut présenter devant Dieu. Ce peuple, cette Église, pour qui il s'est livré en sacrifice, il veut la conduire devant lui un jour, sainte, pure, irréprochable, glorieuse. Alors voyez-vous, lorsque l'Église s'assemble dimanche matin pour chanter des louanges à Dieu, c'est un service d'adoration que nous faisons. Nous sommes en train de servir Dieu. Bien sûr, il y a une dimension d'encouragement. On est là pour se fortifier les uns les autres. On est là pour s'aimer les uns les autres. On est là pour s'accueillir dans le nom de Jésus-Christ. Mais à travers toutes ces activités, lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous allons prier avec un frère, lorsqu'on accueille un visiteur dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'offrir un service d'adoration à Dieu. Nous sommes en train de servir celui qui a racheté nos âmes. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de servir Dieu. C'est une sainte assemblée, c'est un service d'adoration que nous sommes en train d'offrir à Dieu. Ce matin, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu pour apprendre ensemble, pour grandir ensemble, pour apprendre quelle attitude, quel sentiment, quelle attention aussi. Quelle attention on devrait avoir dans ce moment-ci, là, lorsqu'on rentre ici le dimanche matin. Pas parce que le lieu est saint, ça ne peut pas être plus séculier et ordinaire que ça. Parce que c'est une sainte convocation pour le peuple de Dieu. Quelle attitude, quel sentiment, quelle attention nous devrions avoir ensemble lorsqu'on vient ici pour chanter des louanges à Dieu, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Voici comment je pourrais résumer ma compréhension du psaume 100, la prédication aussi, ce que je veux vous partager. Dieu est plus haut que le meilleur des concerts. Et il mérite tout notre cœur, toute notre joie, des chants de louange sentis, toute notre attention. Et je sais très bien que pour plusieurs d'entre vous, c'est difficile d'imaginer la louange du peuple de Dieu comme un concert. C'est pas vraiment l'image que vous avez. Pourtant, lorsqu'on lit le psaume 100, c'est pas mal hot cette affaire-là. C'est un gros party qui est en train de se passer. Le psalmiste est en train de dire, « Hey, la gang, God is in town! » Dieu est en ville et vous venez l'adorer. Regardez avec moi le psaume 100. Psaume 100, verset 1, je vous le relis. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, tu es digne. Tu es digne que nous entrions ici le dimanche matin, le cœur rempli de joie et d'espérance. Le cœur dans l'attente. De voir ta gloire se manifester à travers tes louanges, dans nos cœurs, par ta parole, par l'œuvre de ton esprit au milieu de nous. Parce que tu nous dis que tu es particulièrement présent lorsque deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu nous dis que tu habites au milieu des louanges de ton peuple. Oh Seigneur, Seigneur, tu es digne que nous soyons fous de toi lorsqu'on vient chanter tes louanges. Tu es digne, Seigneur, de nos meilleurs sentiments. Tu es digne de toute notre attention, Seigneur, parce que toi, le Dieu trois fois saint, tu nous invites dans ta sainte présence. Tu nous accueilles, Seigneur. Mais qui sommes-nous? Moi, Seigneur, je suis pécheur et je conduis un peuple de pécheurs. Ma bouche et mes lèvres sont impures et je conduis un peuple qui est impur, Seigneur, en lui-même. Si ce n'est à cause de toi, Jésus-Christ. Et pourtant, tu nous accueilles à cause de ton œuvre et de ta grâce dans tes parvis, dans ta présence. Viens parler à nos cœurs ce matin, Père. J'ai besoin, Seigneur, nous avons besoin que ton esprit, qui est particulièrement présent ici ce matin, vienne nous parler par ta parole, afin que cette assemblée se rassemble pour chanter tes louanges, conscient de cet auditoire saint et glorieux, Dieu, qui nous écoute chaque semaine. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Amen. Comprenez-vous, c'est pas le Canadien. C'est pas le Canadien qui arrive en ville puis qui vient de gagner la Coupe Stanley. Malgré toute l'excitation que ça peut éveiller dans nos cœurs, une gang de gars qui courent après une petite puck d'hockey puis ils ont gagné la Coupe Stanley. C'est pas le Super Bowl non plus. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des repères dans la vie, il y a des repères dans l'année, il y a des repères dans la semaine. Et le dimanche matin, c'est un repère. C'est un marqueur de temps. Parce que le peuple de Dieu s'assemble pour célébrer Dieu. Et pourtant, souvent le meilleur de nos sentiments vont pour la sainte flanelle. Malgré tout le respect que je leur dois. Il y a plus d'excitation à regarder un match de hockey que de chanter les louanges de celui qui a racheté mon âme. Come on! C'est pas sérieux. Contexte du psaume 100. Comme je le disais tantôt, le psaume 100, c'est un psaume qui était chanté pour convoquer le peuple d'Israël à venir entrer dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, pour lui offrir un service d'adoration. Alors, si vous voulez juste pencher vos yeux vers le texte, juste un mot sur la structure du passage. Les versets 1 et 2 servent d'invitation. Le verset 3 nous donne des raisons pour adorer Dieu, nous instruit pourquoi est-ce que le peuple de Dieu devrait avoir autant de joie. Le verset 4, on revient encore à l'invitation. Et enfin, le verset 5 nous donne encore des instructions, des raisons. Est-ce que vous voyez le mouvement dans le texte? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Invitation. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Instruction. Voilà pourquoi on devrait le célébrer. Verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Invitation. Verset 5, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà pourquoi on devrait le célébrer. Instruction. Alors, regardons le passage ensemble. D'où vient cette joie dans la louange? Mais premièrement, parce qu'on vient adorer le seul qui est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Cette simple déclaration, l'Éternel est Dieu, c'est la déclaration de foi de tout l'Ancien Testament. À travers tout l'Ancien Testament, l'Éternel, Yahvé, s'évertue à démontrer qu'il est le seul vrai Dieu. Que tous les autres dieux ne sont pas de vrais dieux. Ce sont des idoles. C'est le fruit d'imagination des hommes. Toutes les philosophies, tous les autres dieux ne sont pas de vrais dieux. C'est la déclaration de foi de tout l'Ancien Testament. L'Éternel, Yahvé, est Dieu. C'est ça qu'il y a derrière l'Éternel, Yahvé. Yahvé est Dieu. Voilà pourquoi on devrait le célébrer. C'est parce que tous les autres ne sont pas des dieux. Et lorsque les chrétiens s'assemblent, ils sont en train de célébrer et d'adorer le seul, l'unique Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ni Allah, ni les dieux hindous, ni la voix de Bouddha, ni quelque autre Dieu ne sont Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. Et derrière ce nom, il y a toute l'histoire de l'Ancien Testament où Dieu s'est évertué à démontrer par des hauts faits extraordinaires qu'il est Dieu. Rappelez-vous ces conflits avec les Philistins où Dieu leur montre que leurs dieux ne sont que des idoles. Dieu se rit, Dieu se moque de toutes ces inventions des hommes. Il y a un seul Dieu qui a créé la terre et les cieux et c'est l'Éternel. C'est le seul. Yahvé est le seul Dieu. Voilà pourquoi on devrait être rempli de joie lorsqu'on vient ici. Parce que nous venons adorer le vrai Dieu. Et lorsque le psalmiste est en train de crier ça, lorsqu'il est en train de chanter ça, il est en train de dire à Israël, rappelez-vous, regardez en arrière, regardez tout l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu ne nous a pas montré qu'il est le vrai Dieu? Regardez votre histoire, sa révélation à Abraham, Moïse, la délivrance de l'esclavage, la conduite vers la terre promise, tous ces hauts faits, les prophètes. Écoutez, l'Éternel est Dieu. Et dimanche après dimanche, lorsque nous nous assemblons, nous venons célébrer le seul vrai Dieu. Et tous ceux qui s'assemblent dans un autre nom que le nom de l'Éternel sont en train de parler aux nuages. Il parle au vent, à l'air. Il parle à des objets faits de main d'homme, conçus par l'esprit humain. Mais nous, on vient célébrer l'Éternel, qui nous a montré dans son histoire qu'il est Dieu et qu'il mérite notre adoration. C'est toute la trame de l'Ancien Testament. Le psaume dit, « Sachez que Yahvé est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Reconnaissez dans votre cœur. Dites Amen de tout votre cœur. » Et c'est ça qu'on fait le dimanche matin. Lorsqu'on vient chanter et déclarer qu'il est Dieu, qu'il règne, que toute la terre devrait le célébrer. Pas tous les dieux de la terre. Seul l'Éternel a accompli ce qu'il a accompli. Seul l'Éternel est Dieu. Voyez-vous, l'adoration part de la connaissance de Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. L'adoration part d'une compréhension. Avant d'être un sentiment le dimanche matin, avant d'être un sentiment quand je suis en train de chanter des louanges chez moi ou lorsque je suis dans la prière, c'est une connaissance que je reçois de Dieu. Dieu me fait connaître que lui seul est Dieu. Et j'ai cette conviction profonde, j'ai cette connaissance, cette conviction à l'intérieur de moi que l'Éternel est Dieu, qu'il est le seul Dieu. Si vous venez ici ce matin et dimanche après dimanche et vous êtes rempli de doutes, vous dites, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que vraiment il y a juste un Dieu? C'est pas surprenant qu'il n'y ait pas de louange dans vos cœurs. Vous venez ici rempli de doutes. Si vous venez ici en vous disant, est-ce que ça se peut que les autres soient en train aussi d'adorer Dieu? Mais quelle conviction, quelle joie va sortir de ce cœur-là. L'Éternel est Dieu. Et si Israël connaissait les hauts faits de l'Éternel, qu'en est-il des chrétiens, frères et sœurs? Je veux dire, ces gens-là ne savaient rien. Ces gens-là n'avaient rien vu. Mon Dieu à moi a envoyé son Fils pas Allah, Allah n'aurait jamais envoyé son fils pour qu'il meure sur la croix. Tous les musulmans le savent. Allah n'aurait jamais fait ça. Mon Dieu à moi a envoyé son fils pour qu'il meure sur la croix pour mes péchés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Et ce Fils est mort sur la croix pour mes péchés et il est ressuscité d'entre les morts. Et il a envoyé son esprit. Et j'ai connu personnellement dans mon cœur, après avoir lu ces histoires et tous les hauts faits de Jésus, j'ai connu dans mon cœur que cette histoire est vraie parce que cette histoire a bouleversé ma vie, a bouleversé mon âme. Elle a redirigé complètement ma vie. Elle m'a donné la paix avec moi-même, la paix avec Dieu, la paix avec l'univers, parce que je sais que pécheur que je suis, j'ai été gracié. Et son esprit habite en moi. Son esprit me rappelle constamment que je suis un enfant de Dieu, qu'il est mon Père. Je connais Yahvé. Je connais Jésus-Christ. Sachez que l'Éternel est Dieu. J'ai cette connaissance de Dieu qui vient remplir mon cœur de louanges le dimanche matin. Amen. Mais quel autre Dieu sur la terre est venu mourir sur la croix pour vous? Mais quel autre Dieu parmi les hommes est venu s'offrir en sacrifice pour le pardon de vos péchés? Aucun. Aucun. Parce qu'aucun autre n'est Dieu. L'Éternel est Dieu. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Sachez que l'Éternel est Dieu. Israël savait que l'Éternel est Dieu à cause de tout ce qu'il avait fait. Nous savons, à plus forte raison, que l'Éternel est Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu, il a accompli les prophéties. Il est mort sur cette croix pour mes péchés. Il a bouleversé ma vie. Il a réconcilié mon âme avec Dieu. Il a effacé mes fautes. Aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Je sais que l'Éternel est Dieu. Pourquoi est-ce qu'on devrait venir avec joie pour adorer Dieu, pour le célébrer? Parce qu'il a fait de nous son peuple. Deuxième raison, pour s'assembler, chanter des louanges, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont... Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Regardez avec moi les versets 3 et 4. Le verset 3, en fait. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Il en va toujours ainsi avec Dieu. Nul homme ne cherche Dieu par lui-même. L'homme est pécheur. Et toujours à travers l'histoire, Dieu se donne un peuple. C'est Dieu qui s'est donné un peuple avec Israël. Ce peuple-là n'était pas le peuple de Dieu. Dieu a choisi Israël. Et Dieu a fait ce peuple. Parce que le psalmiste dit ici, c'est lui qui nous a fait. Je ne pense pas qu'il est en train de parler de la création. Je ne pense pas qu'il est en train de parler de tous les hommes que Dieu a fait. C'est vrai que Dieu a créé tous les hommes. Mais dans le contexte, il est en train de parler de ce peuple qu'il s'est donné. Et voyez-vous, celui qui n'était pas le peuple de Dieu, Dieu l'a choisi pour en faire son peuple. En Abraham, Dieu s'est donné un peuple. Il est allé les chercher alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'étaient pas un peuple. Ils étaient de misérables esclaves. C'est pas un peuple, cette affaire-là. C'est des serviteurs, des esclaves. Et Dieu est allé. Il a envoyé Moïse. Il les a sortis d'esclavage. Il les a conduits au désert pour les épouser. C'est vrai? Pour faire une alliance avec eux. Il les a conduits au désert pour faire une alliance avec eux. Pour leur dire, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. On va se marier ensemble. À jamais. À jamais. Et ensuite, il les a conduits dans un voyage de noces. Il les a conduits dans la terre promise. Voyez-vous, Israël venait adorer Dieu année après année en sachant que c'est Dieu qui avait créé ce peuple-là. Ils n'étaient rien, n'avaient aucune puissance. Ils étaient des esclaves. Mais Dieu s'est fait un peuple. Qu'en est-il de nous? De l'Église? Si c'est vrai pour Israël, mes amis, je vous le dis, c'est plus vrai encore pour vous et moi. Vous êtes une gang de païens. Vous êtes une gang de... Vous savez, c'est quoi des païens? C'est des barbares. Vous êtes une gang de barbares qui vivez dans un peuple de barbares. On trucide nos enfants avant leur naissance. Puis on dit, c'est correct, c'est la liberté. On célèbre la liberté sexuelle à outrance. Nous vivons dans un peuple de barbares qui n'a aucune crainte pour Dieu. Malgré toutes les bontés de Dieu envers le Québec, envers les Québécois, aucune crainte de Dieu. Rien à cirer de cette terre où tu nous as placés. Voyez-vous, on vient d'un peuple de barbares qui n'a pas la crainte de Dieu. Et ceux qui viennent d'ailleurs, je suis sûr que si on jasait, vous seriez d'accord aussi pour dire que c'est pas tellement mieux à l'extérieur. Et pourtant, on est tous ici, et la majorité d'entre vous, vous faites partie du peuple de Dieu. Vous faites partie du peuple de Dieu. Vous faites partie du peuple de Dieu parce que Dieu vous a choisi. Et la majorité ici ont expérimenté cela. Pour certains d'entre vous, vous avez accepté le Seigneur lorsque vous étiez jeune. Votre conversion s'est passée tôt, c'est moins évident. Mais pour ceux comme moi qui se sont convertis peut-être vers l'âge de 18 ans et plus, ou 15, 16 ans et plus, plusieurs d'entre vous, vous avez expérimenté ce moment où Dieu a commencé à vous attirer à lui. Moi, je ne cherchais pas Dieu, pourtant je savais tout. Je n'avais aucun intérêt pour lui. Je ne voulais pas marcher selon sa loi. Mais je sais, je peux vous raconter en détail cette période de ma vie où Dieu a commencé à m'attirer à lui. Je n'étais pas de son peuple. Je n'étais pas son enfant. J'étais un barbare qui vivait dans un peuple de barbares, qui prenait plaisir au vice, à la débauche. Alléluia, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Yes, c'est pour ça qu'on est sur la terre. Et Dieu a commencé à m'attirer à lui. Il a commencé à parler à mon cœur. Il a commencé à me dire, Yannick, toi, tu vas devenir mon enfant. Tu vas devenir mon peuple. Tu vas faire partie de la famille de Dieu. Et je vais t'attirer à moi. Et tu vas être un de mes enfants. Dans Matthieu 11, 25, voici ce qu'on lit. Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Puis Jésus dit, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous êtes ici et vous chantez les louanges de Dieu et vous célébrez le nom de Jésus-Christ parce que Christ vous a attiré à lui. Vous n'étiez pas de son peuple. Je n'étais pas de son peuple. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a rassemblés autour de la croix. C'est lui qui nous a attirés. C'est lui qui nous a révélé le Père. C'est lui qui a transformé cette vision de la croix qui était une espèce de patente religieuse bizarre pour les petits vieux en quelque chose d'extraordinaire, la plus belle expression de l'amour qu'il n'y aura jamais dans tout l'univers, dans toute l'histoire de l'humanité, l'expression de l'amour de Dieu pour moi. Le pardon, la grâce. Vous ne seriez pas ici si Christ ne vous avait pas attiré. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Et vous le savez dans votre cœur. Et plusieurs d'entre vous, vous avez expérimenté. Vous pouvez témoigner de ça, de ce moment où Christ a commencé à vous attirer à lui. C'est cette réalité-là ici que Jésus est en train de décrire. Puis au verset 28 dans Matthieu 11, il continue en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Voyez-vous, Jésus est en train d'inviter tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, comme dans le psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Il invite tout le monde, et pourtant, les seuls qui composeront son peuple, les seuls qui composeront son peuple, sont ceux à qui le Fils révélera le Père. C'est un privilège que nous avons. Parce que chacun d'entre nous, si nous sommes du peuple de Dieu, c'est parce que Dieu nous a fait. Dieu nous a fait entendre son appel. Et de la même manière que Dieu avait lui-même racheté Israël de l'esclavage, de même Jésus-Christ nous a racheté de l'esclavage du péché pour faire de nous son peuple. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, et il est notre berger qui veille sur nous et nous conduit dans ses voies. Le dimanche, lorsqu'on s'en vient chanter ses louanges, la joie devrait être dans notre cœur parce que nous savons que l'Éternel est Dieu, lui seul est Dieu. Et parce que nous savons que c'est lui qui nous a rachetés. Nous sommes son peuple, c'est lui qui nous a fait. Autrement, vous tous, pareil comme moi, on serait encore en train d'errer très loin de Jésus-Christ, à se vautrer dans notre péché. Troisième raison, parce qu'il nous accueille dans sa présence. Regardez le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Israël est invité à entrer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Entrer dans la maison de Dieu, c'est entrer dans la présence de celui qui est trois fois saint. Est-ce que vous réalisez le privilège que nous avons? Lorsque Dieu dit à Israël, entrez dans mes parvis, entrez dans ma maison. Il est en train de dire à Israël, entrez dans la présence de celui qui est trois fois saint. Dieu est saint, mes amis. Vous êtes impurs. Je suis impur. Dieu est saint. Dieu est parfait. Et si ce n'est pour Jésus-Christ, nous sommes tous impurs. Il faut être saint pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que celui qui essaie d'entrer dans sa présence et qui n'est pas saint, meurt, foudroyé. Et un jour, c'est ça qui va se passer. Tous les hommes vont se présenter devant Dieu. Et Christ va dire, tous ceux qui n'ont pas été sanctifiés, justifiés par mon sacrifice, vous ne pouvez pas entrer dans ma présence. Hors de ma vue. Parce qu'il n'y a que ce qui est saint qui entre dans ma présence. C'est une sainte convocation qui est faite à Israël parce que Dieu les invite à entrer dans sa présence. Dans Lévitique 11, 45, Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Lévitique 22, 31, « Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. » 1 Samuel 2, la prophétesse Anne prie ainsi et elle dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Et voici ce que les anges chantent et déclarent dans Apocalypse 15. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur? Qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » C'est ce Dieu saint qui invite dans le psaume 100 Israël à entrer dans sa présence. Israël avait expérimenté un peu de la sainteté de Dieu lorsque Dieu s'est manifesté à eux sur le mont Sinaï. Et si vous avez lu ces pages, vous vous rappellerez qu'Israël, à un certain moment donné, a dit « Arrête! Arrête! » Parce qu'il est saint. Et pourtant, ici, dans le psaume 100, celui qui est trois fois saint est en train de dire à ce peuple de pécheurs, moi, il y a une gang de têtes de rebelles. Il leur dit « Entrez dans mes parvis, venez dans ma présence. Venez-vous-en, venez célébrer ma gloire. » Parce que Dieu avait pourvu à travers le sacrifice un pardon. Alors qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Qu'en est-il de nous qui connaissons l'Évangile de Jésus-Christ? Nous qui savons que tous ces sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament n'étaient simplement qu'une préfiguration de ce que Christ viendrait faire sur la croix. Nous qui avons saisi la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu expliqué, illustré à la croix. Tout l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu sont illustrés là, dans la croix. Ce Dieu saint et si grand est tellement amour qu'il était prêt à donner son Fils en sacrifice. Et Dieu le Fils était prêt à s'offrir en sacrifice afin que moi je sois pardonné de toutes mes conneries, de tous mes péchés, de toutes mes bêtises. De tout ce que j'ai pu faire d'abject, de stupide, d'arrogant, que je puisse être pardonné de tout cela. Et non seulement cela, mais il nous est dit que son esprit vient habiter en nous, que notre corps est à présent le temple du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Et lorsque nous nous assemblons comme ça ensemble pour chanter ses louanges, bien, Jésus nous dit que d'une manière spéciale, il est présent au milieu de nous. Lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, Christ en ce moment, invisible, Jésus-Christ est présent ici au milieu de nous d'une manière particulière, d'une manière spéciale. Et chaque dimanche matin, lorsque nous nous assemblons, c'est Dieu qui nous invite à venir chanter nos louanges, à venir joindre nos voix aux cohortes d'anges dans les cieux qui sont en train de célébrer sa gloire. C'est ça l'invitation qui nous est faite. Alors on devrait être rempli de joie de savoir que malgré ce que nous sommes, malgré nos bêtises, malgré nos péchés, malgré tout cela, Dieu m'invite encore. Comme Jésus invitait encore Pierre après qu'il l'ait renié trois fois, puis il lui a dit « Paie mes brebis, Pierre. » « Oui, mes seigneurs. » Tu sais que je t'aime, mais pas comme il faut. Paie mes brebis, Pierre. Il est encore en train de l'accueillir. Et Jésus les a tous accueillis après sa résurrection. Il les a tous accueillis. Il a dit, vous êtes mes disciples. Non, on est ceux qui t'ont renié. On est impurs. On est indignes de toi. Toi, t'es mort sur la croix pour nous, puis nous, on t'a rejeté. Non, je vous accueille. Je vous accueille. Et chaque dimanche, quelle que soit votre semaine, quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous vous rassemblez avec les frères, vous dites, Seigneur, j'ai péché cette semaine. J'ai péché encore, Seigneur. Mes péchés me rappellent qui j'étais, Seigneur, et je ne suis pas encore exactement qui je voudrais être pour toi. Mais je viens, Seigneur, dans cette sainte convocation au milieu du peuple de Dieu. Et je veux chanter tes louanges et reconnaître la grâce qu'il y a en Jésus-Christ et savoir que tu m'accueilles dans ta présence, Seigneur. On devrait être rempli de joie parce que Dieu, le Dieu trois fois saint, nous accueille dans sa présence. Enfin, dernièrement, parce que sa bonté et sa fidélité sont infinies. Sa bonté et sa fidélité sont infinies. Nous, on va être infidèles. Vous l'avez été cette semaine, je l'ai été. Vous l'avez peut-être été déjà ce matin. Il y en a peut-être qui ont péché toute la nuit. Hier soir, vous étiez peut-être en train de pécher. Infidèle, mais membre du peuple d'un Dieu qui est fidèle, d'un berger qui est fidèle, dont les bontés sont éternelles. Voilà pourquoi on devrait venir le louer avec le cœur rempli de joie. Parce qu'il est Dieu. Parce que nous sommes son peuple. parce qu'il nous invite dans sa présence, parce qu'il est fidèle et sa bonté est éternelle. Voyez-vous, il est digne de notre meilleure louange, il est digne de notre plus grande reconnaissance, il est digne d'un vrai service d'adoration. Qu'est-ce que je veux dire par notre meilleure louange? Lorsque nous nous assemblons pour chanter ses louanges, il est digne de toute notre attention, les amis. Je l'ai dit tantôt au début, les cantiques qu'on chante ne sont pas un intermède avant la prédication. Je le dirai pas plus durement que ça, d'accord? J'ai prié pour que le Seigneur me donne de parler avec douceur et avec amour. Parce que moi aussi, je suis un pécheur. Mais les cantiques qu'on chante ici le dimanche matin, ce n'est pas un intermède avant la prédication. Je sais que vous êtes des baptistes. Je la connais, la toune. Mais avant d'être des baptistes, vous êtes des chrétiens. Et pendant l'éternité, ce qu'on va faire, ce n'est pas rentrer tranquillement puis laisser la gang faire le party pour célébrer Dieu puis dire, « Seigneur, je m'en viens, mais j'ai encore 3-4 affaires à faire. » Non, on va chanter ses louanges. Pour l'éternité, on va célébrer sa gloire. Il est digne de toute notre attention. C'est une sainte convocation. Il est digne qu'on mette de côté nos préoccupations, nos oublis, nos préoccupations, nos inquiétudes, les choses qui pourraient nous distraire. Il est digne de toute notre attention. Il est digne de nos meilleurs sentiments. Il est digne du meilleur de notre cœur. Il est digne de notre meilleur service d'adoration. Paul nous dit dans Romains 12 que toute notre vie doit être un sacrifice d'action de grâce. C'est vrai? Chaque jour, chaque instant de ma journée, chaque moment, mes pensées, tout ce que je fais avec mon corps, avec mon temps, avec mes énergies, c'est un acte d'adoration. Alors, dans un sens, je veux dire, c'est pas juste le dimanche matin, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais en même temps, je vous dirais que probablement, que l'intensité de vos louanges, la vérité de vos cœurs le dimanche matin, et le reflet de votre consécration le reste de la semaine. Fort probablement. Parce que Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de nos bouches le dimanche matin? Qu'est-ce qui sort pour Christ? Quand on s'en va dans la prière ensemble, puis on se recueille chacun pour soi, qu'est-ce que vous avez à dire à Christ? Rien? Probablement le reflet du reste de la semaine. Alors, apprenons ensemble en Église que lorsque nous assemblons le dimanche matin, nous sommes dans une sainte convocation et on est là pour s'encourager ensemble, célébrer notre Dieu parce qu'il est particulièrement présent. Et si la semaine a été difficile, Seigneur, tu es ici au milieu de tes enfants, entends mes prières, entends mes louanges, bouleverse mon cœur parce que cette semaine, Seigneur, je veux la vivre pour toi et ça commence ce matin. Alors que je suis au milieu des louanges de ton peuple, alors que tu habites ici au milieu de nos louanges, alors que je me place et je dispose mon cœur pour entendre le message de ta parole. Méditons sur ces choses, arrêtez la minute, fermez les cellulaires, arrêtez tout, soyez ici pour Dieu, parce que c'est une sainte convocation pour chanter les louanges de celui qui s'est offert en sacrifice pour nous. Amen. Et ceux et celles qui vont venir ici, voir ce qui se passe ici. Ceux et celles qui vont vous côtoyer dans la semaine vont dire, mais qu'est-ce qui vous excite tant que ça le dimanche matin? Oh mon ami, un jour tu comprendras que ce que tu trouves de tellement bizarre, la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais si lorsque les gens viennent le dimanche matin, ils ont l'impression d'assister à une procession funéraire, catholique, l'image que j'ai, je m'excuse pour ceux qui viennent d'Amérique latine, c'est vraiment ça, tu sais. Avec un Jésus qui est encore comme ça. C'est parce qu'il est ressuscité, tu sais. Il faut le catcher à un moment donné. Il est ressuscité. On va le chanter. Amen. On se lève ensemble. On va chanter sa gloire. On va chanter son nom. Éternel notre Dieu, nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus, tu t'es offert en sacrifice sur cette croix pour nous. Nous n'étions pas ton peuple, nous n'étions pas dignes de toi, Seigneur. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es venu, Tu nous as rachetés, tu as fait de nous ton peuple, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Dimanche après dimanche, nous voulons venir à cette sainte convocation et chanter tes louanges, chanter la gloire de l'agneau, mort et ressuscité, Seigneur Jésus, et joindre nos voix à ces cohortes d'anges qui chantent ta gloire dans les cieux. Amen.